Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 19 mai 1401 du calendrier iranien, 11 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran convoque à nouveau l'ambassadeur britannique pour ingérence dans les affaires intérieures du pays. Le président Raisi participe au 6e sommet de la SICA à Astana. Le rapport du ministère iranien du renseignement sur le projet de déstabilisation contre l'Iran. Différents maritimes, le Liban aurait approuvé le projet final d'un accord avec le régime israélien. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Les médias officiels du Kazakhstan ont annoncé que le 6e sommet de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, SICA, se tiendra du 12 au 13 octobre avec la présence des dirigeants de 11 pays, dont le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, à Astana, la capitale du Kazakhstan. Selon l'IRNA, citant les médias officiels du Kazakhstan, le porte-parole du ministère kazakh des Affaires étrangères a annoncé mardi 11 octobre, lors d'une conférence de presse, que le 6e sommet de la SICA se tiendra sous la présidence du président du Kazakhstan du 11 au 13 octobre à Astana, la capitale de ce pays. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, 11 pays, dont la République islamique d'Iran, la Russie, la Turquie, le Pakistan, le Qatar, l'Irak, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la République d'Azerbaïdjan, la Palestine et le Tadjikistan devraient se réunir au plus haut niveau lors du 6e sommet de la SICA. Le porte-parole de la faction Révolution islamique du Parlement iranien a annoncé, selon le rapport du ministère du Renseignement aux membres de la faction, les arrestations des chefs des émeutes indiquent la participation de groupes contre-révolutionnaires au projet de la déstabilisation de l'Iran. Selon le journaliste parlementaire de l'IRIB, Aboulfazl Amoui, expliquant la réunion de la faction de la Révolution islamique du Parlement mardi 11 octobre concernant les récents troubles, a déclaré. Lors de cette réunion, l'un des vice-ministres du ministère du Renseignement a présenté un rapport sur les différents aspects de ces développements et un certain nombre de députés ont expliqué leurs opinions. le porte-parole de la faction Révolution islamique, a ajouté. Selon les discussions lors de la dite réunion, les ennemis de la Révolution islamique poursuivent le projet de déstabilisation en Iran dans le cadre de la guerre cognitive. Sur la base des informations fournies, les arrestations des monteurs des émeutes indiquent la participation de divers groupes contre-révolutionnaires aux émeutes, a surligné ce député iranien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a de nouveau convoqué l'ambassadeur britannique pour exprimer la vive condamnation des interventions de la Grande-Bretagne dans les affaires intérieures de l'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que l'Iran considérait les sanctions arbitraires de la Grande-Bretagne comme totalement sans valeur et se réserve le droit de prendre des mesures réciproques. La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à la République islamique d'Iran pour ce qu'il a qualifié de violation des droits de l'homme lors des récentes émeutes dans le pays. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le Liban aurait approuvé le projet final d'un accord avec le régime israélien qui vise à régler le différend maritime de Beyrouth avec le régime sioniste au sujet d'un gisement de gaz en Méditerranée. Le bureau présidentiel libanais affirme que le projet répond aux exigences du Liban et protège ses droits aux richesses naturelles. L'accord maritime ouvre la voie à l'exploration des réserves de gaz naturel offshore par le Liban. Israël a également qualifié l'accord d'historique. Mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, n'a pas encore réagi, mais il a déclaré plus tôt qu'il accepterait la position du gouvernement libanais sur la conclusion d'un accord maritime avec le régime israélien. Le Hezbollah a également mis en garde le régime israélien contre le pillage de ressources naturelles du Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait qualifié samedi d'étape très importante la réception par le Liban de la proposition écrite de l'envoyé américain sur la démarcation de la frontière maritime entre le Liban et la Palestine occupée. La Russie s'est engagée à répondre à l'implication croissante des pays occidentaux dans le conflit ukrainien. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, avertit que les États-Unis et l'OTAN devraient réaliser, selon ses mots, le danger d'une escalade incontrôlée à Washington et dans d'autres capitales occidentales. Ryabkov a fait ses commentaires après que Washington et ses alliés occidentaux ont déclaré qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine avec plus d'aide militaire. Le président américain Joe Biden s'est engagé à fournir à l'Ukraine des systèmes avancés de défense aérienne. Il a fait cette promesse après que la Russie a mené ses plus grandes attaques de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Washington est un important fournisseur d'armes à l'Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie en février. Les valeurs de l'aide militaire américaine s'élèvent à près de 17 milliards de dollars. Les dirigeants de l'Union européenne ont également promis une aide militaire accrue à l'Ukraine quelques heures après que des tirs de missiles ont frappé plusieurs régions du pays, dont la capitale ukrainienne, Kiev. Les dirigeants français et allemands ont promis d'offrir leur plein soutien conformément à ce qu'ils appellent les besoins militaires de Kiev. L'Allemagne annonce également qu'elle livrera bientôt un système de défense aérienne aux forces armées de l'Ukraine. Et enfin, en procédant à des tirs de missiles du 25 septembre au 9 octobre, la Corée du Nord affirme avoir évalué la capacité de dissuasion de son pays et ainsi répondre aux manœuvres entre Séoul et Washington qui, selon elle, continuent une menace militaire. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour la troisième fois au cours des derniers mois convoqué l'ambassadeur britannique à Téhéran, Simon Shercliffe, au sujet de l'ingérence de la Grande-Bretagne dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran et les nouvelles sanctions de Londres contre Téhéran. Selon un communiqué de lundi, lors de la réunion, le directeur général du département de l'Europe occidentale au ministère iranien des Affaires étrangères a transmis à l'ambassadeur britannique la protestation véhémente de la République islamique d'Iran contre l'ingérence de la Grande-Bretagne dans les affaires intérieures de l'Iran. Le responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré à l'ambassadeur britannique que Téhéran considérait les sanctions arbitraires imposées par Londres et leurs prémices fondamentales comme inacceptables et sans valeur. Il a ajouté que la République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre des mesures réciproques en échange des nouvelles sanctions de la Grande-Bretagne sur les soi-disant questions des droits de l'homme. Cela s'est produit après que, plus tôt lundi, le Bureau britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait imposé des sanctions à la police de la moralité iranienne dans son intégralité, ainsi qu'à son chef, Mohammad Rostami Cheshmegachi, et au chef de la division de Téhéran, Ahmad Mirzaï, pour leur rôle présumé dans la répression des récentes émeutes dans le pays après la mort de Mahsa Amini. Des protestations contre la mort de la femme iranienne de 22 ans qui s'est évanouie dans un poste de police le 16 septembre et a ensuite été déclarée morte dans un hôpital de Téhéran ont éclaté d'abord dans sa province natale du Kurdistan, puis dans plusieurs villes, dont la capitale Téhéran. Immédiatement après la mort de Mahsa Amini, le président iranien Ebrahim Raisi a ordonné une enquête approfondie sur l'affaire et un rapport officiel a été publié vendredi qui a déclaré que sa mort avait été causée par une maladie plutôt que par des coups présumés à la tête ou à d'autres organes vitaux. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques a pris une tournure violente après que des manifestants indisciplinés ont mortellement attaqué des policiers et se sont livrés à du vandalisme contre les biens publics dans plusieurs villes. Les nouvelles sanctions de la Grande-Bretagne sont intervenues après que le département du Trésor des États-Unis a imposé jeudi des sanctions à 7 responsables iraniens, les accusant de soutenir la fermeture d'Internet et de réprimer les manifestations contre la mort de Mahsa Amini. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a censuré la nouvelle série de sanctions américaines contre la République islamique d'Iran, affirmant que les interdictions sont la colonne vertébrale de la soi-disant réglementation américaine en matière des droits de l'homme. Le commandant en chef de l'armée iranienne a également déclaré dimanche que les forces armées iraniennes ne permettraient aucune ingérence et agression étrangère contre la République islamique d'Iran. Le général de division, Abdulrahim Moussavi, a ajouté que toutes les branches des forces armées iraniennes se soutiennent mutuellement et forment la ligne de front du pays pour protéger la sécurité de la République islamique d'Iran et faire face aux menaces intérieures et étrangères.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons parler particulièrement des 46 mercenaires arrêtés sur le sol malien à leur arrivée, des mercenaires qui venaient de la Côte d'Ivoire, donc des personnes qui faisaient partie des forces spéciales qui avait pour opération de déstabiliser le pays. Alors, avec la perspicacité du gouvernement malien, ces personnes avaient été arrêtées le 22 juillet dernier, donc sur le sol malien. Alors, l'ironie, c'est que ces personnes-là préfèrent de ne pas quitter donc, ce pays, même s'ils sont arrêtés, car arrivés sous la Côte d'Ivoire, ils seraient exécutés sur le champ à cause de leur échec dans cette opération pour déstabiliser le pays. Beaucoup de responsables, presque tous les responsables africains, évitent d'en parler car c'est un sujet très névralgique. Nous allons voir ça en détail à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Depuis la visite des envoyés spéciaux de la mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, jeudi dernier, aucun chef d'État africain n'a prononcé un seul mot pour demander la libération des 46 mercenaires ivoiriens emprisonnés à Bamako, pas un seul communiqué de l'organisation sous-régionale pour coordonner les violons Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Oumarou Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, se sont précipités à Paris pour rendre compte à leur maître Emmanuel Macron de l'humiliation subie par leur émissaire à Bamako, des nouvelles révélations sur ce dossier mal ficelé et de la nouvelle stratégie pour empêcher tout procès dans cette affaire de complot d'État. Les mensonges ont une durée de vie très courte. À cause des mensonges du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, les envoyés spéciaux de la CEDEAO ont eu la honte de leur vie et le Forum des Nations Unies où le haut sommet de la diplomatie mondiale a été la ruse du monde la semaine dernière. Pour rappel, la CEDEAO avait décidé le 22 septembre à New York, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, de dépêcher 3 chefs d'État à Bamako pour faire pression sur le colonel Assimi Goïta afin qu'il libère les 46 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet 2022 avec des armes de guerre. Selon notre source, la diplomatie malienne a clairement démontré que les 46 mercenaires ne sont pas seulement des soldats ivoiriens, mais parmi eux se trouvent 16 soldats ivoiriens des forces spéciales d'ADO. Les autres sont 4 Sierra Leone, 5 Sud-Africains, 4 Guinéens et des Togolais, tous issus de la Légion étrangère française. Les 3 femmes étaient des dames d'honneur qui ne sont pas membres des forces armées, mais qui avaient d'autres rôles et d'autres missions a joué à Bamako dans le cadre de cette opération pleine Tabaski, raison pour laquelle le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été clément avec elle, d'où le jargon militaire de titre humanitaire pour masquer l'obligation diplomatique de la libérer. Voilà les raisons du silence radio de la délégation de la CEDEAO qui s'immisce dans une affaire judiciaire entre les deux pays membres. Face au colonel et à la diplomatie malienne, les présidents guinéens Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow ont baissé la tête car le rapport d'enquête est explosif et au moment opportun, l'État malien rendra public le cas des militaires mixtes. Comme aime à le dire l'ancien président Laurent Gbagbo, détenteur de passeport ivoirien pour les besoins de la cause, mais rattrapé grâce à la vigilance des vaillants militaires maliens et mis à la disposition de la justice malienne. Ainsi, face à l'échec de cette opération de déstabilisation commandée par les stratèges géopolitiques du Sahel et mise en œuvre par Alassane Ouattara, le parrain de la France-Afrique, les 46 mercenaires ivoiriens préfèrent être jugés et condamnés au Mali plutôt que de faire rapatrier à Abidjan. Car le président ivoirien Alassane Draman Ouattara refuse de révéler la vérité dans cette affaire. Contrairement à ces mercenaires qui ont tout avoué aux enquêteurs, affaire à suivre.
Alors voilà pour le reportage. Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des experts des questions internationales en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude et bonjour à mon collègue africain.
Tout le plaisir est pour nous, M. Luc Michel. Un grand bonjour justement à notre autre invité, expert des questions internationales et journaliste depuis New York. Il s'agit de M. Daouda Emile et Ouedraogo. Comment allez-vous, monsieur?
Oui, bonjour. Je vais bien. Bonjour aussi à Luc Michel.
Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, M. Michel, beaucoup de responsables politiques, même les chefs d'États africains, évitent de parler de cette question, là, qu'il s'agit de l'arrestation de 46 mercenaires qui donc pensaient que c'était de simples voyageurs alors qu'il s'agissait de forces spéciales armées jusqu'aux dents afin d'avoir une opération de déstabilisation du pays. D'abord, pourquoi les responsables africains évitent de parler de ce sujet ?
Écoutez, depuis le début de l'affaire, alors qu'il n'y a pas de doute, puisqu'on a arrêté les mercenaires dans un avion chargé d'armes de guerre et que leurs faux passeports portent des professions qui ne les présentent pas comme des militaires, mais comme des étudiants, des cuisiniers, des maçons, etc. Donc le crime était signé. Mais depuis le début, la CEDEAO, Alassane Ouattara, mais aussi les Nations Unies, multiplient les mensonges. Il faut savoir que la CEDEAO, c'est un espèce de syndicat des chefs d'État pro-occidentaux. On a Alassane Ouattara et le roi du Maroc, qui sont les domestiques de la France-Afrique. Le président du Ghana est lié par un pacte de partenariat stratégique avec les États-Unis et avec la Bundeswehr de Berlin. Et enfin, vous avez dedans, bien entendu, Mohamed Bazoum au Niger, qui lui est un peu un domestique de l'OTAN, des Américains et des Français. Ces gens-là se sont ridiculisés en démultipliant les mensonges, alors que la population de Bamako, la population malienne et les panafricanistes d'Afrique connaissaient tous la vérité dès le premier jour.
Absolument. Monsieur Ouedraogo, vous êtes avec nous depuis New York, alors vous avez entendu les propos de Monsieur Luc Michel. Donc, comment se fait-il qu'on envoie donc 46 mercenaires armés jusqu'aux dents, des spécialistes coup d'État, et donc au Mali, venant de la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le pays? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, je dois dire que l'affaire des 46 militaires ivoiriens a défrayé la chronique. Mais il faut dire que dès le départ, l'affaire a été mal gérée. Pourquoi j'ai dit l'affaire a été mal gérée? Parce que il y a eu une confusion et différentes versions dans dans le fait que les 46 militaires, bon, ils étaient 49 au départ, et les trois femmes ont été libérées, ont été au Mali. Pourquoi j'ai dit que l'affaire a été mal gérée? Parce que, d'abord, la mission de ces 46 militaires, il y a eu une vraie cafouillage, il y a eu un vrai cafouillage dès le départ. Parce que la Côte d'Ivoire avait dit que c'était une mission de soutien à la NSE, qui est une filiale rattachée aux Nations Unies. Et en son temps, les Nations Unies avaient tout de suite dit que non, ils ne reconnaissent pas ces militaires-là. Alors, après tractation, le représentant des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu encore sur sa parole pour dire que ce sont des soldats de soutien. Alors donc, il y a eu déjà un cafouillage. Alors que, dans ce cas de figure, à un certain niveau, à un certain degré de l'administration, on ne peut pas tolérer ce genre d'erreur-là. Alors, c'est ce qui fait que aujourd'hui, si on veut aller dans le sens de la compréhension du mercenariat, il faut dire que le Mali est dans son droit de faire toute la lumière sur l'affaire des 46 militaires. Mais là où la communauté internationale et la CDAO se fourvoient un peu, c'est de mettre la pression sur Bamako pour qu'il libère ses militaires. Alors que le pouvoir d'Assimi Goïta et l'administration judiciaire dans ce pays disent que l'indépendance de la justice est un fait dans ce pays. Alors, il faut non seulement privilégier la négociation bilatérale, mais aussi savoir que la justice aussi a le pouvoir et le droit en tant que nation libre, en tant qu'institution libre dans une nation, de pouvoir poursuivre ses activités contre ses 46 militaires. Alors voilà la situation un peu décrite à l'heure actuelle. Et je rappelle que dans cet échange-là, c'est le Togo qui a été choisi comme pays médiateur entre ces deux nations. Et cette négociation et cette médiation se poursuit afin de trouver la meilleure formule, afin de trouver les meilleures articulations entre les deux pays pour pouvoir résoudre cette affaire des 46 militaires. Et il faut signaler que ces 46 militaires, comme votre présentateur l'a dit au départ, ne sont pas tous des militaires ivoiriens. Il y a d'autres nationalités parmi ces 46 militaires-là. Donc, c'est avec l'évolution que toutes ces réalités se posent aujourd'hui à la face du monde, et il va falloir prendre la mesure de pouvoir traiter cette question de façon responsable et ne pas chercher à mettre la pression sur les autorités maliennes dans le cas de figure où ils sont dans leur plein droit d'agir pour la sécurité de leur pays.
Oui, absolument. Monsieur Luc Michel, bon, c'est vrai que bon, il s'était déplacé pour déstabiliser le pays. Alors, pour une cause humanitaire, les trois femmes mercenaires, enfin, les trois femmes qui étaient présentes dans ce groupe ont été libérées pour justement une cause humanitaire. Et les 46 autres sont très, très bien traités. Ils ont allé jusqu'à dire qu'ils étaient donc prêts de ne pas quitter le sol malien, même s'ils étaient donc pardonner donc d'avoir opéré une telle donc opération, car si il s'était rendu rapatrié dans la Côte d'Ivoire, il serait exécuté sur le champ. Que pensez-vous?
Écoutez, on dit en Hongrie, en Europe, il y a un proverbe qui dit que le mensonge suit le menteur comme la queue suit le chien. C'est particulièrement grave pour les Nations Unies, puisque les Nations Unies ont démontré qu'elles étaient complices d'une opération de mercenariat occidental. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'il y a plusieurs affaires dans la Centrafrique voisine de la même nature. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que les Nations Unies ont dit qu'il s'agissait de troupes auxiliaires au service de la Bundeswehr qui est déployée au Mali à ce moment-là. Mais même Berlin, qui ne traite pas des histoires pareilles a refusé d'avaliser les Nations Unies. Les Nations Unies ont d'un côté pris en plein mensonge et évidemment simplifié l'affaire. Que l'on ait de telles méthodes employées par la CEDEAO qui est au service des Occidentaux n'est pas étonnant. Que l'ONU soit prise dans une telle affaire, c'est particulièrement scandaleux. Et ça indique nettement que les gens qui demandent la fin de la MINUSMA, de la MINUSCA en Centrafrique ou de la MONUSCO au Congo ont parfaitement raison. Ces gens sont des complices de l'impérialisme occidental.
Monsieur Luc Michel, le fait qu'ils soient qui venaient des pays différents, donc de l'Afrique, est-ce que c'était fait exprès pour tromper justement l'opinion publique mondiale et même les Maliens, que ce n'étaient pas des mercenaires alors qu'ils étaient de simples gens en visite au Mali?
Non, puisque les passeports ne les désignaient pas comme des étrangers. Mais en réalité, il semblerait qu'on ait recruté des mercenaires de la Légion étrangère. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le mercenariat en Afrique, ce ne sont plus comme du des années 1960-1980, ce ne sont plus des armées, des soldats perdus, des armées occidentales, comme Bob Denard par exemple. Aujourd'hui, ce sont des bandes d'Africains, Tchadiens et Soudanais qui se déplacent entre les frontières du Sud-Soudan et les frontières de la Guinée équatoriale. Mais le problème, c'est que la plupart de tous ces gens ne parlent pas français, ce qui est indispensable à faire de ce contre Bamako. Il a donc fallu prendre de parler français.
Absolument.
Ça indique évidemment une façon de prendre les Africains pour des imbéciles. Paris, mais aussi Washington ou Berlin, ils croient encore qu'ils sont dans l'Afrique d'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut rouler les Africains dans la farine. Aujourd'hui, les Africains, espionnage développé, ils savent de quoi il s'agit. Et aux côtés du Mali, il y a particulièrement le service de contre-espionnage militaire le plus développé au monde, les Russes du GRU. Le GRU russe a été fondé en 1922. C'est le meilleur service de contre-espionnage du monde. Et par exemple, en 1941-45, il avait enregistré le haut état-major de Hitler, ce qui a fourni un avantage militaire, évidemment, aux soviétiques contre les nazis. Aujourd'hui, évidemment, les Russes du GRU apportent un avantage stratégique à leurs alliés africains.
Donc, M. Luc Michel, vous dites que le gouvernement malien donc, jouit de ce système très avancé russe anti-espionnage.
Oui, tout à fait. Vous savez qu'en plus, il faut savoir que ceux qui sont déployés au Mali, c'est ce qu'on appelle c'est les paramilitaires russes. En fait, les Occidentaux, les Français, les Américains, ils parlent du groupe Wagner. En réalité, il y a 11 firmes paramilitaires russes, dont le groupe Sewa Security, qui est déployé en Centrafrique et au Mali. Mais ces gens particulièrement, ils travaillent main dans la main avec le GRU russe. C'est cela la réalité. Et évidemment, les Occidentaux n'ont pas pris la nature de ce qui se passait en Afrique et de leur isolement.
Absolument. Monsieur Ouedraogo, votre réaction, je vous prie, face aux propos de Monsieur Luc Michel.
Alors, concernant le lieu de la libération des Ivoiriens, je ne sais plus comment les qualifier, puisqu'il y a des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Alors, donc, on va prendre la terminologie, les 46 soldats Ivoiriens. Voilà. Alors, concernant le lieu de la libération, il faut savoir que d'ores et déjà, il y a des discussions entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Les autorités maliennes veulent que les soldats soient libérés au Mali. Les autorités ivoiriennes veulent que les soldats soient libérés comme les trois soldats avaient été libérés auparavant, c'est-à-dire par Lomé. Donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui les discussions entre les deux États pour dire que grâce à la médiation du Togo, les discussions ont beaucoup avancé. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans cette affaire, L'Afrique essaie de faire part aussi de sa tradition de dialogue et de compromis entre pays frères. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et l'Occident qui souvent vient s'entremêler, quand je dis l'Occident, je parle de surtout la France et aussi avec la bénédiction de l'ONU, qui souvent vient s'entremêler dans des débats entre Africains pour dénaturer cette logique de dialogue que nous connaissons en Afrique. En Afrique, les conflits généralement se résolvent sous l'arbre à parabole qu'on avait appelé depuis l'époque des temps anciens le baobab sacré. C'est sur cet arbre à palabre que les discussions se menaient lorsqu'il y avait un conflit entre deux entités. Et cette valeur africaine a toujours pignon sur rue, cette valeur africaine est toujours d'actualité dans nos contrées, même si nous avons été fouettés par la culture occidentale. Donc il faut que souvent les Occidentaux puissent comprendre que nous aussi en Afrique, nous avons nos valeurs culturelles, nous avons nos manières de résoudre nos conflits, nous avons nos manières aussi de mener la marche de nos pays qui souvent ne souffrent pas de débats, mais que les Occidentaux veulent dénaturer, veulent imposer leur point de vue. Et c'est ce qui crée souvent les conflits. Donc, dans le cadre du maintien, dans le cadre de l'opération de la libération des 46 militaires ivoiriens, il faut déjà voir cet aspect-là. Cela fait un. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que le Mali veut se mettre au-dessus de la mêlée. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a fait une erreur. Et les Ivoiriens l'ont même reconnu à Lomé, au Togo, qu'ils ont fait une erreur dans le management des 49 soldats qu'ils ont envoyés au Mali. Ça, c'est déjà un pas. Et deuxièmement, l'ONU aussi a fait une erreur d'appréciation, une erreur de compréhension et une erreur de gestion de cette situation qui devait dès le départ être fait sous la transparence, être fait sous l'auspice de la vérité. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui en sort grandi parce que malgré tout ce qu'on dit, c'est les autorités maliennes qui ont pris le pouls de la situation, qui ont accepté de négocier, d'accepter d'entendre le cri du cœur de leurs frères ivoiriens pour que cette question soit résolue de façon bilatérale et qu'on n'écoute pas les pressions des Occidentaux, les pressions de la CEDEAO pour pouvoir accepter de libérer ces soldats ivoiriens. Absolument. Voilà un peu ce qui en est et voilà un peu mon analyse de la situation.
Oui. Justement, Monsieur Luc Michel, est-ce que vous croyez que cette opération qui avait été déjouée par la perspicacité du gouvernement malien va être la fin de ces opérations de déstabilisation ou il y aura peut-être d'autres opérations?
Je ne pense pas parce que actuellement, aussi bien les Américains que les Français, ils tentent de mener une contre-attaque dans toute l'Afrique et en particulier, il y a des opérations de mercenariat qui sont en préparation, notamment contre la Guinée équatoriale dans la perspective 2023, avec des bandes de mercenaires armés. Il y a un homme qui est l'interface entre le Quai d'Orsay et les groupes de mercenaires, c'est le général centrafricain Bozizé, qui a tenté et raté un coup d'État contre le président élu Touadéra en janvier 2021. C'est donc évidemment les vieilles méthodes qui sont envoyées, mais dans cette affaire, la CEDEAO ou Alassane Ouattara, ils représentent la vieille Afrique néocoloniale, tandis que les colonels de Bamako, avec leurs alliés, ils représentent la nouvelle Afrique dégagée du colonialisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est devenu le lieu où sont déployées les forces spéciales américaines et françaises. Depuis que Macky Sall au Sénégal s'est rapproché de l'Iran et de la Russie, eh bien, à ce moment-là, et que les colonels de Bamako sont passés du camp des Russes, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue la principale base logistique arrière des Occidentaux. En particulier, la grande base logistique occidentale qui se situe à Dakar a été remise en début de cette année à l'armée sénégalaise. Voilà ce qu'on représente. Les Occidentaux, évidemment, continuent à jouer les vieux scénarios, à employer la vieille méthode. Cela ne passe plus en Afrique.
Absolument. Merci, M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à M. Daouda Emile Ouedraogo d'avoir été avec nous depuis New York et d'avoir répondu à nos questions. Et bien, c'est prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes avec vous avec une autre émission sur l'histoire des sciences en Iran. Dans ce programme, nous présentons l'éminent scientifique iranien Khaja Nasiruddin Tusi et ses activités écrites scientifiques. Restez avec nous. Le poète, philosophe, théologien, juriste, penseur, mathématicien, astronome, médecin et architecte Khaja Nasiruddin Tusi, né le 17 février 1201, se distingue en Iran et dans le reste du monde. Sa vie durant, il a toujours privilégié les principes éthiques et scientifiques. Khaja Nasiruddin Tusi passe toute son enfance dans la ville de Tous. Il y apprend le Coran, les sciences littéraires, les hadiths prophétiques et prend connaissance des œuvres des anciens savants dès son plus jeune âge. Il a également étudié la jurisprudence et mémorisé les hadiths sous la direction de son père. Khaja Nasir a également étudié les mathématiques, arithmétique, géométrie et algèbre ainsi que la musique. Dans sa prime jeunesse, il s'est rendu à Neshabur pour acquérir le plus de connaissances possibles. Avant son arrivée à Neshabur, la ville avait connu de nombreux événements et plusieurs de ses écoles et mosquées avaient été détruites et ses importantes bibliothèques avaient été pillées ou brûlées. Néanmoins, la ville a toujours été le lieu de rassemblement des savants, des juristes, des rapporteurs de hadith et des sages. Lorsque Khaja Nasir y a commencé ses études, la province de Khorasan fut attaquée par les Mongols. Les Mongols ont tué les habitants des petits et grands villages et ont pillé les richesses de la région. Certains survivants, dont Khaja Nasir, ont essayé de trouver des endroits sûrs pour vivre. Une partie des habitants de la région se sont réfugiés dans des forteresses et d'autres ont vécu dans le désert. À cette époque, Nasser al-Din Abu Rahim ibn Abi Mansur Muhtasham, le gouverneur de la région du Kouistan, située dans l'actuelle province méridionale du Khorasan, était installé dans les forteresses des Ismaéliens du Khorasan et a accordé une profonde attention aux savants. Il a convié donc Khadja Nasir à visiter le Khuzestan ayant entendu sa renommée. Pendant la vie de Khadja Nasiruddin Tusi, dans les bastions des Ismaéliens, il a rédigé un livre intitulé « Éthique de Nasserian ». Le scientifique iranien est resté relativement long avec Nasiruddin Mohtasham et a passé toute sa vie à étudier et à écrire de nombreux livres scientifiques. Bien entendu, Khadja Nasir a également rédigé des poèmes et des notes qui racontent spécifiquement sa vie difficile et ses souffrances dans les forteresses des Ismaéliens. En 653 de l'Égypte, Rukneddin Khosha se retrouve à la tête des Ismaéliens dans la forteresse d'Alamout. Mais un an plus tard, le khan mongol Hulagu attaque la forteresse. Entre-temps, certains érudits, Khadja Nasir entre autres, ont exhorté Khosha à se rendre au roi des Mongols à empêcher le massacre des civils. Khosha a finalement accepté l'initiative des sages et s'est rendu à Hulagu-Khan. Le roi mongol, qui avait été informé des connaissances riches et précieuses de Khadja Nasir, l'a invité à se rendre à sa cour et le scientifique iranien a accepté son invitation. Khadja Nasiruddin Tusi a acquis une telle crédibilité à la cour de Hulagu-Khan au point que celui-ci ne prenait aucune décision, ne se déplaçait pas et surtout ne délivrait aucun ordre sans le consulter. Khadja Nasiruddin Tusi est l'auteur d'environ 190 livres et traités dans divers domaines. Certains érudits occidentaux ont classé ses ouvrages par sujet. Ainsi, Karl Brockelmann, un orientaliste allemand, a réparti son 9 volumes des œuvres de Khadja Nasir dans 10 thèmes. Jurisprudence, principes et croyances, philosophie, mathématiques, physique, astronomie, médecine, mine et musique. D'autre part, Georges Sarton, l'historien des sciences, a publié 64 volumes des œuvres de ce scientifique iranien dans les catégories de l'arithmétique et de l'algèbre, de la géométrie, des instruments astronomiques, etc. Tusi a également effectué de nombreuses recherches dans le domaine de la chimie. Parmi les plus importantes réalisations de ce scientifique dans le domaine de la chimie, notons qu'il a abordé en premier le principe de la conservation de la masse. Il a également été le tout premier à étudier la trigonométrie indépendamment de l'astronomie et a écrit un livre à ce sujet. Dans ce livre, il a présenté en détail la trigonométrie sphérique indépendamment de l'astronomie. Les activités étendues de Khadja Nasir ont fait des études de la trigonométrie une branche distincte des mathématiques pures indépendantes de l'astronomie, alors que cette branche scientifique a été étudiée parallèlement à l'astronomie pendant des siècles. Les réalisations de Khadja Nasir dans le domaine de l'astronomie traditionnelle sont nombreuses. Certaines de ses réalisations sont les suivantes. La création d'un tableau détaillé du mouvement des planètes qui est consultable dans le calendrier Ilkhani, le livre qui contient des tables astronomiques pour calculer les positions des planètes et des étoiles. Inventer une méthode géométrique appelée théorème de la Hire, livre considéré comme faisant partie de la théorie des planètes de Roger. En astronomie, Tusi a établi des tables détaillées qui déterminaient les mouvements planétaires et qui étaient considérées comme un modèle planétaire moderne de l'astronomie ptolémaïque. Tusi a également effectué des calculs précis pour les équinoxes annuels et a inventé des instruments astronomiques inédits dont l'astrolabe. Ce n'est pas sans raison que le penseur tunisien Ibn Khaldoun l'a appelé le plus grand scientifique iranien de l'après-islam. Khwaja Nasiruddin Tusi a composé des poèmes en arabe et en persan qui ont été détruits lors de divers événements et à part quelques quatrains, il n'en reste rien d'autre de ce penseur iranien. Khwaja Nasir est mort à Bagdad en 1274 après de nombreuses activités scientifiques menées au service de l'humanité. De nombreux savants du monde entier ont admiré les travaux scientifiques de ce savant musulman. En Iran, le 24 février, date de l'anniversaire de Khwaja Nasiruddin Tusi, est appelée « Journée de l'ingénierie ».